RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui à Cuba. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro fait basculer la dictature de Fulgencio Batista et entre avec ses guérilleros, ses barbudos, dans la ville de Santiago de Cuba sous les ovations des habitants. Il entame alors une remontée triomphale par le centre du pays, baptisé le cortège de la victoire, pour arriver à La Havane le 8 janvier 1959. C'est cette même route, en sens inverse, qu'a pris le cortège transportant les cendres du commandante décédé le 25 novembre dernier pour rejoindre le 4 décembre le cimetière Santa Ifigenia à Santiago de Cuba où reposent les héros de la révolution et de l'indépendance. Manu Pochez et Véronique Guémard ont suivi le cortège à la rencontre des Cubains. Voici leur grand reportage.
Exactamente las 9:27 minutos es la cadena nacional de radio en este tributo a Fidel.
La Havane, lundi 28 novembre 2016. Depuis trois jours, les documentaires sur Fidel Castro tournent en boucle sur les radios et les télévisions. Neuf jours de deuil national ont été décrétés. La vie suit son cours dans une ambiance étonnante, sans musique salsa ou reggaeton et sans alcool. Seuls sont diffusés les chanteurs comme Silvio Rodriguez, Pablo Milanés ou cette chanson à la gloire de Fidel. Sur la place de la Révolution, mardi 29 novembre, des milliers de personnes, en grande majorité des fonctionnaires des ministères, de l'éducation, de la santé, des écoliers, des policiers et des militaires en uniforme, amenés en car, et des familles venues saluer leur comandante. Ils sont venus écouter les discours de condoléances d'une vingtaine de chefs d'État d'Amérique latine, d'Afrique, de Chine ou de Russie. Une foule très organisée, mais aussi des larmes spontanées. Maria Cristina González, professeure de biologie et membre du Parti communiste cubain, arbore une pancarte avec le portrait de Fidel Castro. Elle est sincèrement bouleversée par la mort du commandante.
Fidel, c'est une réalité. Nous sommes tous fidèles. Nous sommes tous les enfants de Fidel. Moi, j'ai pleuré la mort de Fidel comme si c'était mon propre père. Et je n'ai pas l'impression qu'il soit mort. Je ne parle pas de lui au passé. Fidel vit en moi. Je suis Fidel.
Fidel vive en moi. Je suis Fidel.
Dolores Ferreiro, retraitée du ministère de la Communication d'origine espagnole, se souvient de l'arrivée triomphale des troupes de Fidel Castro à La Havane le 8 janvier
1959.
C'est très difficile d'oublier tout ça, les révolutionnaires dans les rues, les barbudos qui entraient dans la ville. J'avais 12 ans, je n'étais pas si jeune que ça, j'ai participé, je les ai vus rentrer dans La Havane. Après, mes parents ont pu étudier, mon père a terminé le secondaire et ma mère a pu finir le primaire, alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Et grâce au triomphe de la Révolution, mon frère et moi, nous sommes devenus universitaires. Mes enfants ont fait des études supérieures. Alors c'est vrai qu'on vit avec toutes les difficultés que connaît le peuple cubain, mais on peut tous le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous.
Maria Cristina González continue d'applaudir à tous les discours en scandant « Vive Fidel, Cuba est grande ». Elle est convaincue que le rapprochement avec les États-Unis entamé par Raúl Castro et Barack Obama pourrait ne pas durer avec Donald Trump.
Cet acte vient confirmer que Cuba et Fidel sont une vérité, qu'on doit nous respecter en tant qu'île, en tant que peuple. Et Donald Trump ne va récolter qu'une défaite. On les a déjà battus une fois à Playa Girón, la baie des cochons, et on va continuer à les vaincre.
Ici, sur la place de la Révolution, on n'entend aucune voix discordante ou critique. Les opposants ont fait profil bas pendant la période de deuil. Loin de la foule, Jorge, la trentaine, est resté dans son quartier. Beaucoup de ses amis ont quitté Cuba. Lui veut rester, mais il ne se sent pas concerné par la mort de Fidel Castro.
Realmente, yo no me siento identificado.
Je ne m'identifie pas à toute cette ferveur. Moi, je ne vais pas aller sur la place de la Révolution. Je ne vais pas suivre les obsèques parce que je ne me sens pas identifié avec cette personnalité au point d'aller lui rendre hommage. J'ai 30 ans et je pense que nous, les jeunes générations, nous sommes tout simplement passés à autre chose. Je pense qu'il n'y a pas de raison de le détester, pas de raison non plus de l'admirer. C'est une personne qui est décédée, un point c'est tout.
Mercredi 30 novembre, 7h du matin, coup de canon. Le cortège transportant les cendres de Fidel Castro quitte la Havane pour rejoindre Santiago de Cuba, à 900 km de là, dans le sud du pays. Très tôt, la foule s'est massée au bord de la rampa qui descend vers le fameux Malecón, l'avenue du bord de mer. Des employés, des professeurs d'université, avec leurs élèves, agitent des drapeaux.
Je suis venu avec mes étudiants de l'université, avec les jeunes qui sont la relève. On est au premier rang pour lui dire adieu, car cette révolution, c'est aussi celle des jeunes, c'est la relève.
Et puis un hélicoptère survole le quartier, le cortège passe, avec les cendres du leader de la révolution. Sandra a les larmes aux yeux.
Voilà, notre leader Maximo, notre guide, vient de passer. C'est pour lui et pour la révolution que je suis devenu médecin. Maintenant, le cortège doit parcourir tout le pays parce que tout le monde veut lui rendre l'hommage qu'il mérite.
Le cortège prend la direction du sud. Première étape, Santa Clara, où le combattant Che Guevara, dont la statue domine la place de la Révolution, a mis en déroute l'armée du dictateur Batista en faisant dérailler un train blindé rempli d'armes. Une action décisive dans le triomphe de la Révolution, dit-on.
C'est une ville très emblématique, avec des combats très liés au triomphe de la Révolution. Ici reposent les restes de Che Guevara avec ses guerrieros. À l'intérieur de ce monument, là-bas, les cendres de Fidel restent jusqu'à demain et une veillée est organisée toute la nuit.
Santa Clara, c'est aussi la ville des musiciens comme Rolando Berrio qui anime la veillée avec des chansons de la Nueva Trova, un mouvement social et culturel, alors que le deuil a plongé le pays dans le silence. La mère de Rolando Berrio, une afro-cubaine de plus de 70 ans, se souvient.
En 1959, me fui à travailler de domestique à La Habana.
En 1959, je suis partie travailler à la Havane comme domestique. J'ai suivi les cours de couture d'une des premières écoles que la Révolution a mises en place pour les domestiques. Fidel nous a poussés à nous surpasser. Il nous a donné la possibilité de nous éduquer. Je dis toujours qu'il m'a enlevé la serpillière, le balai et les gardes d'enfants que je faisais depuis l'âge de 14 ans.
Santa Clara, c'est aussi la ville du Mejunje, un lieu culturel qui allie musique, théâtre, exposition, dirigé depuis 33 ans par Ramon Silverio, qui veut en faire un lieu idéal qui représente les 100 voix et la société du futur. Ramon Silverio a célébré au Mejunje en août dernier l'anniversaire des 90 ans de Fidel Castro avec les jeunes générations. Et il se souvient bien de janvier 1959.
Yo tenía 12 años, una zona rural.
J'avais 12 ans, j'habitais une zone rurale, celle des sans-terre, des gens très très pauvres. Et c'est là que commence mon engagement avec Fidel, car Fidel a sauvé la vie de milliers de Cubains comme moi. J'étais un pauvre paysan, j'ai vu le triomphe de la révolution sans chaussures. Je suis allé voir passer les Barbudos, les troupes du Che, j'étais pieds nus. Je me revois très bien, je portais le seul pantalon que j'avais, qui était troué aux fesses. À partir de ce moment-là, a commencé un changement profond pour les gens de la campagne, des opportunités pour tous. Moi, j'étais à moitié analphabète, je n'étais jamais allé à l'école, et les campagnes ont commencé à se remplir d'écoles, avec des possibilités d'avoir une bourse. On a vu la première loi révolutionnaire de réforme agraire. La vie a radicalement changé avec ce triomphe de la révolution.
Mais il y a eu aussi des périodes sombres, des procès politiques et la fameuse période spéciale au début des années 90, lorsque s'effondre l'Union soviétique et que l'aide russe se tarit. Teresita, à la soixantaine, elle en garde un mauvais souvenir.
Je crois que ça a été un des moments les plus durs de la révolution. Beaucoup ont pensé qu'on ne tiendrait pas. On n'avait plus d'électricité, ou très peu par jour. Des pénuries d'aliments, comme l'huile, la viande. L'agriculture a été détruite. Il y avait des moments où on voulait tout lâcher. Mais petit à petit, on y est arrivé. Fidel nous a toujours dit, on va s'en sortir. Et une fois de plus, on lui a fait confiance. Je pense qu'une fois qu'on est sorti de cette période spéciale, une période mauvaise en fait, la révolution s'est vue renforcée. On s'est dit, personne ne pourra en finir avec nous.
Creo que la révolution s'est hizo más fuerte. Y creo que ahí fue cuando dijeron, bueno, pues entonces esto no hay quien acabe con esto.
Et les vieilles recettes pour s'en sortir sont toujours d'actualité.
Estamos arreglando un colchón aquí a una compañera.
Là, on répare un matelas dans la rue pour une camarade. Il était en mauvais état, on le refait. On met un cerclage, de la ouate et un tissu neuf. Il sera comme sorti d'usine. Dans le commerce, ça coûte 240 coupes, 240 euros. Et nous, on les refait pour 80. Et quand on a fini de coudre, c'est parfait. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est Fidel qui nous a appris ces choses-là pour qu'on survive pendant la période spéciale. Il nous a appris à inventer pour continuer à vivre. Ici, on ne s'enrichit pas, mais on survit. C'est le plus important.
Direction Camagüey. Le long de la route, des milliers de personnes se sont déplacées pour voir passer le cortège. La police gère la circulation. Sur le marché de Camagüey, des haut-parleurs diffusent la radio nationale. Les paysans livrent les produits de la terre et les vendeurs, comme Alain, attendent les clients.
La vie des Cubains est un peu difficile, mais se vive. En Cuba, se vive et se vive bastante bien.
La vie des Cubains est un peu difficile, mais on vit. À Cuba, on vit plutôt bien. Le Cubain moyen ne peut pas partir en vacances à l'étranger, comme beaucoup le font ailleurs. Mais dans son pays, il vit plutôt bien. On a appris à résister, et on résiste encore.
Et beaucoup de jeunes quittent le pays.
Ah oui, je connais un tas de gens qui sont partis. Mais pas moi, moi je ne veux pas quitter Cuba. La plupart de ceux qui partent ne le font pas pour des raisons politiques, mais économiques. Mais on ne veut pas tous partir, ok ?
La majorité n'a pas de problème politique, mais de problème économique.
Le théâtre du vent dans la vieille ville coloniale de Camagüey est fermé pour cause de deuil national. Dalia Sanchez est actrice. Un choix de vie difficile car les salaires sont très bas. Elle aussi aimerait partir quelque temps, mais revenir ensuite vivre ici. Pour elle, une page se tourne à Cuba, mais il faut rester vigilant.
Oui, bien sûr, il va y avoir un changement. J'espère qu'il sera progressif en fonction des besoins et que ce soit pour le meilleur, pas pour le pire.
Qu'est-ce qu'il faudrait préserver ?
Le système de santé, même s'il faut l'améliorer. Notre système d'éducation, notre tranquillité, notre paix. La chaleur des gens, leur manière d'être, de se tendre la main à tout moment, de ne pas ramper pour 5 pesos.
Et l'accès à Internet ?
C'est encore compliqué. Ça existe, mais c'est très cher. Une heure, ça coûte 2 dollars, 50 pesos. Moi, je ne gagne pas 50 pesos par jour. C'est difficile. J'ai 27 ans et je n'ai même pas d'ordinateur.
L'accès est très difficile. J'ai 27 ans et je n'ai pas de computer.
Vendredi soir, le cortège transportant les cendres de celui qui dirigea Cuba d'une main de fer pendant plus de 50 ans passe la nuit à Bayamo, accueilli par la ferveur de la province de Granma.
Sans la province de Granma, il n'y a pas d'histoire à Cuba. Ici, c'est le centre de notre histoire. C'est ici que les esclaves ont été libérés pour la première fois. C'est ici que, pour la première fois, on a chanté l'hymne national de Cuba. Notre province, c'est l'axe central de l'histoire de Cuba. Notre commandant en chef l'a dit lui-même, sans l'histoire de Granma, Cuba n'a pas d'histoire.
Le convoi entre sur la place, les écoliers scandent les slogans repris par la foule qui agite frénétiquement des drapeaux. Tous tentent de filmer la scène avec des téléphones portables. Les phrases sont apprises dès le plus jeune âge sur les bancs de l'école et les slogans résonnent tout au long de la route jusqu'à la destination finale, Santiago de Cuba, où vont reposer les cendres de Fidel Castro. Julian avait 12 ans lors de l'attaque avortée contre la caserne de la Moncada en 1953 et 18 ans le 1er janvier 1959 lorsque Fidel Castro est entré victorieux dans la ville après la fuite du dictateur Fulgencio Batista. À 75 ans, il est toujours membre du Conseil de défense de la commune de Santiago.
J'ai intégré les milices nationales révolutionnaires. J'ai combattu dans le massif de l'Escambray. Je travaillais comme chauffeur dans la compagnie nationale de bus et on était tout le temps mobilisé, car je suis capitaine de réserve et je reste mobilisé. Car comme le dit Fidel, le révolutionnaire est un combattant. Il ne prend jamais sa retraite, il continue à se battre pour cela. À l'âge que j'ai, je suis encore capable de prendre un fusil et de tirer.
Samedi 3 décembre au soir, dernière veillée sur la place de la Révolution à Santiago avant la mise en terre, dimanche, des cendres de Fidel Castro dans le cimetière de Santa Ifigenia, aux côtés du père de l'indépendance, José Martí, et des héros de la Révolution. Mais comme nous l'avons entendu à plusieurs reprises de La Havane à Santiago, la situation est difficile pour des millions de Cubains. Delcia vend des journaux, des bonbons, des cigarettes à la sauvette, en plus de son travail de femme de ménage dans une cantine scolaire. Elle ne critique pas la révolution, mais elle ne s'en sort pas, se fait sans arrêt harceler par des policiers et s'est sentie obligée d'aller samedi soir sur la place de la révolution avec ses collègues.
On devait y aller par obligation. Si on n'y allait pas, on pouvait avoir des problèmes avec les unités de travail. Il faut qu'un travailleur voie qu'on est allé sur la place. Mes filles y ont été envoyées par l'école. La suite, je ne la vois pas très positive, parce qu'ici, il n'y a pas de liberté d'expression. On travaille et on gagne une misère en monnaie nationale. La majorité des Cubains, nous sommes pauvres. L'exception, ce sont les gens comme ceux que tu vois là. Les chambres d'hôtes, ceux qui en ont, vivent bien. Comme ceux qui travaillent dans le tourisme, les chauffeurs. Mais nous, le reste de la population, on rame. Les gens dans la rue ont peur de parler. Si on parle, un policier peut nous faire payer une amende et on peut avoir des problèmes avec le gouvernement.
Un policier te peut donner une multa et peut avoir hasta problemas con el gobierno.
Raúl Castro clôture l'événement, la voix grave. Il réitère le caractère socialiste de la révolution et annonce que tout culte de la personnalité de Fidel sera interdit. Aucune rue, place, statue ne portera son nom. Santa Clara est la ville du Che, Santiago sera celle de Fidel, se réjouit María Elena Sánchez Mora. Elle est afro-cubaine, médecin à la retraite. Elle a participé à des missions internationales en Gambie et au Venezuela et loue des chambres aux touristes pour s'arrondir les fins de mois.
Nous sommes très fiers d'avoir ici les cendres de Fidel, parce que Santiago, c'est le berceau de la Révolution. Le 1er janvier 1959, Fidel s'est exprimé ici, à Santiago de Cuba, la Sierra Maestra, où toutes les batailles ont été livrées contre l'armée de Batista, se situe ici, dans cette province. Maintenant, beaucoup de touristes vont venir à Santiago pour visiter le cimetière où reposent ses restes.
Précisément pour visiter où reposent ses restes.
Le cimetière fermé pendant le deuil et l'enterrement rouvre ses portes le lundi 5 décembre. Des écoliers défilent devant la tombe, une énorme pierre polie en forme de grain de maïs où Jimena vient de se recueillir.
C'est très significatif car c'est un rocher de la rivière Cauto dans la Sierra Maestra. Elle est fascinante car elle représente la simplicité de notre comandante. Le pouvoir, la force, c'est ce que représente cette pierre. Pouvoir et force pour continuer.
Toute la gloire du monde tient dans un grain de maïs, avait dit José Martí, le père de l'indépendance. Lundi 5 décembre, c'est la fin du deuil. Tout doucement, la vie musicale reprend. À la Casa de la Trova, les chanteurs ont hâte de recommencer les concerts, même s'ils ressentent la perte de Fidel Castro.
Je m'appelle Garçon, José Armando Garçon. Je suis chanteur. Todo el mundo lo ha sentido.
Tout le monde a été touché par sa mort, tous les Cubains, qu'ils l'aiment ou pas. Fidel est quelqu'un qui peut produire des sentiments très contradictoires. On pouvait être d'accord ou pas avec la révolution, mais on devait admettre que c'était un grand homme.
Llame a tu pecho No sabes el inmenso mal que tú me has hecho.
Grand reportage à Cuba sur la route du cortège des cendres de Fidel Castro de La Havane à Santiago, Véronique Guémard, réalisation Manu Pochez.
Por aquellas palabras que me dijiste.